Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle rencontre en ligne de la BPI. Nous sommes absolument ravis de pouvoir vous garder ce lien et vous retrouver ce soir. Et je remercie tout de suite nos techniciens qui rendent cette rencontre « Lire le monde » possible. Donc, ce sont des rencontres autour de l'actualité de l'édition. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Michel Agier, anthropologue, professeur à l'École des hautes études en sciences sociales, pour son dernier ouvrage « Vivre avec des épouvantails, le monde, les corps, la peur », qui vient de paraître aux éditions Premier Parallèle. Et pour animer cette rencontre, je vais céder la parole à Raphaël Bourgois, qui est journaliste à France Culture et aussi rédacteur en chef d'AOC, le quotidien d'idées en ligne. Alors, si vous regardez cette rencontre via notre Facebook Live, n'hésitez pas à poser des questions directes. Et voilà, très bonne soirée. Merci à vous.
Merci Caroline. Bonsoir à tous. Donc, nous allons passer les 45 minutes qui vont venir en votre compagnie. Michel Agier, ça vient d'être dit, vous êtes anthropologue, directeur d'études à l'EHESS, et vos travaux portent essentiellement sur les questions de la mondialisation, la formation aussi des nouveaux contextes urbains, la ville vous intéresse tout particulièrement, il en sera question au cours de cette rencontre, et vous avez également beaucoup travaillé sur les migrations, les formes d'exil, et il en sera également question lors de cette rencontre. Alors, plus récemment, alors que vos terrains vous ont d'abord mené au Brésil, en Colombie, au Togo ou au Cameroun, et bien ce terrain s'est un peu rapproché de vous dans l'Est parisien où vous résidez, puisque ce qui constituait vos sujets d'études, et notamment les camps de regroupement des exilés, des réfugiés, se sont retrouvés en plein cœur de Paris, en tout cas proche de l'Est parisien, et vous avez évidemment eu l'occasion de les analyser en tant qu'anthropologue. Je rappelle d'ailleurs sur ce sujet, vous aviez dirigé un ouvrage important qui a été publié aux éditions La Découverte en 2014, Un monde de camps, pour ceux et celles qui voudraient en savoir un peu plus. Alors, ça vient d'être dit, votre dernier livre, Vivre avec les épouvantails, qui est publié aux éditions Premier Parallèle, qui vient d'être publié au mois d'octobre, travaille sur cette question de la peur, aussi la question des corps, la question des frontières face à ce qui nous arrive, cet événement massif, cette catastrophe, ce moment de rupture. Vous allez nous dire comment vous la qualifiez, qui est la crise sanitaire, la pandémie de Covid-19, qui évidemment est un phénomène massif et donc un phénomène de la mondialisation. Et c'est peut-être de ça aussi qu'il faudra discuter. Je voulais vous poser une première question, Michel Agier, puisque votre ouvrage commence finalement par une forme d'aveu, c'est-à-dire de dire... En tant qu'anthropologue, confiné, vous êtes retrouvé à faire de l'anthropologie un peu chez vous, de l'auto-ethnographie même, vous dites. Et ce qui est amusant, comme je le disais, c'est que ça correspond un petit peu à une évolution de votre travail. C'est-à-dire que petit à petit, votre terrain s'est rapproché de vous. Et donc, je voulais vous demander comment est-ce que vous avez vécu cette période en anthropologue et comment est-ce que vous analysez cette évolution finalement du monde qui a petit à petit rapproché vos sujets d'études de votre lieu de vie.
Merci, bonsoir Raphaël et bonsoir tout le monde. Je suis ravi aussi de faire cet exercice particulier très lié à ce contexte dont nous allons parler, de cette forme particulière de web conférence. Cette auto-ethnographie, elle s'est imposée, même si c'est vrai, de plus en plus souvent maintenant, les ethnologues du contemporain ne peuvent pas échapper à cette nécessité aussi bien éthique, déontologique que scientifique, même de dire où ils sont, ce qu'ils font et comment ils ont pu avoir connaissance de ce dont ils parlent. Et alors, je me suis trouvé dans ce défi particulier de dire, je suis comme tout le monde, coincé entre les quatre murs de mon appartement parisien, pas très grand, et en outre, sans pouvoir beaucoup circuler à l'extérieur. Donc, que vaut cette expérience-là? Elle vaut d'abord un témoignage, et je pense que c'est ça aussi une dimension de l'anthropologie du présent. L'anthropologie du présent, c'est aussi une forme de témoignage qu'on laisse à un moment donné et que d'autres pourront lire et interpréter. En plus de ce témoignage, ça a été aussi pour moi un défi un petit peu, parce que je défends beaucoup cette anthropologie qui est proche des faits, qui est proche de l'actualité d'une certaine façon, c'est-à-dire proche en général de ce qui arrive. Mes auteurs de prédilection sont des gens comme Georges Balandier, qui a voulu analyser la décolonisation au moment où elle se faisait, et donc il a inventé le concept de situation coloniale et de reprise d'initiative pour décrire ce moment-là, et il s'opposait de cette manière à d'autres ethnologues qui se contentaient de décrire des cultures exotiques séparées de tout contexte. Et donc, j'avais un petit peu ce défi aussi en tête, je me disais, tiens, qu'est-ce que tu es capable de dire aussi pour être utile, pour servir à quelque chose? Qu'est-ce que tu es capable de dire comme anthropologue sur ce qui est en train d'arriver? Et donc, du coup, la description, ça passait aussi par la description de ce que je ressentais, et donc aussi ces émotions, ces moments de peur, ces moments d'inquiétude. Et puis, ce que j'avais en tant qu'anthropologue en tête, c'est-à-dire tous les rapprochements, on pense toujours en relation. Même si quelqu'un n'est pas là à ce moment-là pour dialoguer, je dialoguais avec d'autres rencontres que j'avais pu avoir. Et donc, cet exercice-là de cet ouvrage, il est plein de rappels d'autres terrains qui informent ce qui était en train de, ce qui est encore en train de se passer.
Cette anthropologie informée par l'actualité, celle que vous pratiquez notamment dans votre revue Monde Commun, je la cite aussi parce que je ne l'ai pas citée en introduction, et c'est vrai que c'est un bon exemple de ce travail que vous voulez mener. Et justement, je me demandais quels étaient pour vous les outils spécifiques de l'anthropologie qui conviennent particulièrement à cette période. Je dis ça parce qu'on a eu le sentiment, en tout cas moi comme observateur, comme journaliste qui travaille dans ce monde des idées, de voir émerger les anthropologues d'une façon qu'on n'avait pas forcément vue à d'autres moments. Je pense à la crise des Gilets jaunes auparavant, puisque c'était un des moments les plus récents qu'on a eu à commenter aussi. Bref, on a vu des anthropologues beaucoup plus émerger. Je pense aussi, par exemple, à Frédéric Keck, qui est un anthropologue qui a beaucoup travailler sur la question des virus, de ceux qui alertent sur les virus en Chine, les guetteurs de virus, comme ils les appellent. Et donc, voilà, je me demandais ce qui, selon vous, constitue pour l'anthropologie, voilà, les outils spécifiques de l'anthropologie qui permettent de mieux comprendre cette période de la pandémie.
Alors, je crois que les outils sont les mêmes toujours, de l'observation, de la participation, de l'apprentissage, de la description. Je pense que dans le cas de... Je pense que c'est intéressant de mentionner ce travail de Frédéric Keck, puisque depuis de nombreuses années, il travaille sur la production des savoirs sur les pandémies. Donc là, il y a un élément, il y a un objet durable qui est moins lié à un événement particulier, mais plutôt à une succession d'événements qui permet d'éclairer remarquablement cet événement-là et la manière dont les savants, dont les politiques, s'empare d'un virus, de ce qui se passe, dans la nature, de ce que font les oiseaux pour accompagner ou préparer par exemple des épidémies. L'exercice que j'ai fait est plus proche, peut-être, on peut le dire méthodologiquement, de ce que vous mentionnez à propos des Gilets jaunes, puisque c'est encore cette idée de essayer d'accompagner quelque chose qui est en train d'arriver. Alors, à la différence près, effectivement, que là, on était beaucoup plus dans un exercice, et pour ma part, il est tout à fait préliminaire, et je ne prétends pas du tout avoir réalisé un programme de recherche, mais simplement avoir proposé des pistes de réflexion qui me semblent intéressantes à poursuivre, de saisir dans ce moment-là où il s'est passé quelque chose qu'on appelle une catastrophe. Et pourtant, où on n'a rien vu, c'est ce que je disais, c'est-à-dire le virus est un non-être, l'ontologie du virus est en creux, c'est nous qui l'inventons finalement, ou c'est nous qui la rendons dangereuse, qui produisons ce risque et cette catastrophe d'une certaine façon. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de savoir un petit peu, de recueillir les éléments qui pouvaient constituer un problème pour l'anthropologue, c'est-à-dire la question des frontières, la question du rapport au corps et la question des peurs avec cette dimension-là qui est relativement peu explorée par l'anthropologie, qui est toute, on va dire, cette anthropologie des émotions, en particulier sur les peurs, où là, il y a un objet particulier.
Laisser venir les événements, cette forme d'attitude un peu passive hein, que vous décrivez dès le début de votre ouvrage, Michel Agier, « Vivre avec les épouvantails », c'est quelque chose de naturel pour vous ou d'habitude vous êtes plutôt proactif à aller à la rencontre des choses? Comment, encore une fois, vous avez vécu cette nécessité presque de faire émerger vos impressions, vos sentiments au-delà du travail purement scientifique?
Il y a une décision méthodologique à prendre à un moment donné, mais il faut d'abord s'imbiber, c'est le principe même de l'anthropologie finalement, c'est de s'imbiber de quelque chose, d'une atmosphère qui est dans le lieu où on se trouve, qui n'est pas forcément chez soi. Là, ce qui est exceptionnel pour moi, c'est que ça se passe chez moi, mais encore que ce chez moi était tout relatif, mais effectivement, en général, on va quelque part et on crée une relation qu'on dit d'empathie ou de familiarité jusqu'à un point où on a compris quelque chose, où on est imbibé et donc on est dans cette démarche qu'on dit inductive du terrain vers la théorie pour produire une connaissance, produire simplement des problématiques. Et là, finalement, c'est un petit peu ce qui s'est passé, sauf qu'à un moment, il y a la décision. Là, vous mentionnez d'autres terrains antérieurs où effectivement, à un moment donné, par exemple, en rentrant de Colombie, justement, où j'avais eu affaire à la question des populations déplacées, je me suis posé la question, mais est-ce que pour les gens qui sont déplacés, forcés par les guerres et les violences, est-ce que ça change quelque chose d'être dans un camp ou non, par exemple? C'est pour ça que là, le fait d'aller voir dans les camps a été une décision méthodologique d'une certaine façon et qui était aussi assez expérimentale, puisque très rare pour l'anthropologie. À ce moment-là, il y a une vingtaine d'années, c'est plus le cas maintenant. Et donc, il y a toujours une décision à prendre, mais il faut la prendre, je pense, à un moment où on est suffisamment imbibé par la réalité, par les questions que les gens qu'on rencontre se posent. C'est peut-être ça aussi la particularité de l'anthropologie, former des problématiques d'une manière inductive, c'est-à-dire du terrain à la théorie.
Alors justement, ces terrains précédents, ces travaux que vous avez menés par le passé, Michel Agier, ils vont venir informer votre réflexion dans cet ouvrage. Et j'aimerais commencer peut-être par cette question des frontières qui, évidemment, traversent tout votre travail, les frontières nationales, mais d'autres types de frontières aussi. Vous allez nous en parler, les frontières que constitue par exemple notre corps par rapport au monde extérieur. Vous constatez cette fermeture, finalement, ce recours face à cette épidémie, à cette pandémie, donc à ce virus qui, lui, évidemment, ne connaît pas les frontières et dans un monde mondialisé, les traverse même assez facilement. Vous constatez ce besoin de repli national. Est-ce que vous avez été surpris? Comment est-ce que vous l'avez interprété, Michel Agier?
Oui, les deux aspects m'ont interrogé en même temps, c'est-à-dire… D'un côté, la rapidité qu'ont eu les États, et en France notamment, pour dire il y a un problème, on va fermer les frontières nationales. Beaucoup de pays ont pris cette mesure comme étant, je pense, une mesure, ou bien une mesure par défaut sur le plan sanitaire, parce qu'on ne savait pas faire autrement, ou bien une mesure qui correspond exactement à ce que j'ai essayé d'un peu mieux comprendre après, qui sont les politiques de la peur, c'est-à-dire des politiques qui s'occupent de la peur et qui ne s'occupent pas du virus. Et en l'occurrence, on a d'ailleurs entendu, comme on l'avait déjà entendu sur d'autres questions, et notamment les questions migratoires, oui, on le sait bien, ça sert à rien, mais ça rassure. Fermer les frontières nationales est quelque chose qui rassure. Alors, si ça rassure, eh ben, c'est bien que c'est fait, que ça s'adresse à la peur et ça ne s'adresse pas au virus. Et donc, l'autre aspect qui m'a semblé intéressant, c'est qu'à l'encontre de certains commentaires qui étaient faits et qui se félicitaient ou s'étonnaient, enfin peu importe, du retour des frontières nationales, moi je me suis dit, mais en fait c'est évident qu'il y a non pas un retour des frontières nationales, mais une… complexité des frontières, la pandémie a ses propres frontières qui ne sont pas nos frontières habituelles nationales. Et la première frontière de la pandémie, effectivement, c'est le corps, on l'a bien vu avec les premières mesures de protection des personnels soignants qui étaient les plus au contact, qui protégeaient leur corps. On l'a bien vu avec la question des masques, qui maintenant est évidente, mais au début, ça n'était pas si évident que ça. Et maintenant, on dit, bien sûr, c'est le corps qu'il faut protéger. Et on revient à ces théories plus anciennes que d'autres aussi ont portées, des philosophes, que finalement, la première frontière, c'est la frontière du corps, et c'est même la peau qui fait frontière. Après, ça peut être la tente, ça peut être la toile, ça peut être ce qui entoure le corps. Mais on s'est aperçu qu'on pouvait prendre deux branches finalement dans cette réflexion. L'une, c'était de suivre le virus à partir de ce que peut nous dire l'épidémiologie, qui ressemble beaucoup à ce que peut dire l'anthropologie, c'est-à-dire des analyses de réseau. Depuis les années 50, il existe tout un courant dans l'anthropologie, notamment l'anthropologie britannique, qui s'appelle la Network Analysis, qui étudie les réseaux en étoiles, les réseaux avec les relations primaires, secondaires, tertiaires, etc., et avec des relations intenses ou des liens faibles. Tout ça a été très décrit et théorisé, et on s'aperçoit qu'on peut aussi bien le faire correspondre pratiquement à l'épidémiologie, à la circulation, à l'analyse de la circulation du virus. On a découvert un concept de l'épidémiologie qui maintenant est devenu un mot du langage public, qui est le cluster. Le cluster, c'est exactement le réseau, c'est ça, c'est l'unité. C'est l'unité sociale formée par un réseau de relations, qui veut dire que les corps sont des personnes, les personnes ont des corps, les deux choses sont mêlées. Et cette frontière, donc pour dire cette frontière de la pandémie, elle va depuis mon corps, de chacun des corps en particulier, jusqu'à la planète tout entière, de corps à corps, d'une certaine façon, de réseau en réseau. Et dans ce cadre-là, effectivement, la frontière nationale est une espèce de construction politique qui vient par en dessus, qui n'a pas a priori, qui ne correspond pas a priori avec les frontières de la pandémie.
Oui, vous faites cette hypothèse, Michel Agier, d'un espace continu, en fait, qui est fait d'individus, de clusters, vous l'avez dit, de réseaux, et finalement de la planète tout entière. Et vous nous dites, on comprendrait mieux l'épidémie sur se débarrasser du cadre national, parce que les frontières sanitaires passent par-dessus toutes les autres formes de frontières.
Voilà. Et là, ça s'est imposé. Alors, ça s'est imposé aussi dans le fait que ça a été aussi cette imposition des corps et de la dimension biologique qui s'est imposée sur les autres dimensions, avec là toute cette dimension, tout cet aspect biopolitique qui a été important aussi bien au niveau planétaire. Mais là où les frontières nationales sont revenues et reviennent de manière effectivement réaliste, comme on le dit, c'est précisément parce qu'elles sont les lieux des politiques publiques. C'est-à-dire les frontières nationales sont justifiées d'une manière un peu tautologique par le fait que c'est les frontières des politiques publiques. Et bien justement, face à une pandémie qui est de la frontière la plus minime du corps de chaque individu jusqu'à la dernière frontière à ce jour qui est celle de la planète, peut-être que précisément les politiques publiques qui sont inventées n'ont pas de raison, a priori, de ce point de vue-là, d'être nationales ou, pour le dire à la façon de Ulrich Beck, relevées de la méthodologie, du nationalisme méthodologique. On serait plutôt dans un mondialisme ou dans un cosmopolitisme et un individualisme méthodologique dans ce cas-là.
Alors, peut-être il faut que vous lanciez, Michel Agier, pour nous dire si, selon vous, cette pandémie, c'est un moment de rupture, une catastrophe. Vous avez une réflexion là-dessus dans votre ouvrage, c'est-à-dire comment le mieux définir ce fait social total, hein, on l'a bien compris dans votre façon de l'aborder, c'est-à-dire qui concerne, pour reprendre l'expression de Marcel Mauss, voilà, de fait social qui concerne absolument tous les aspects de notre vie intime et commune. Comment définir ce moment de la pandémie? Parce qu'on a le sentiment que c'est un moment qui nous plonge dans une forme de présentisme total, c'est-à-dire qui nous coupe un petit peu de notre passé, dans la mesure où quand on se retrouvait en premier confinement en mars, avril, quand on parlait d'il y a 2 mois, ça avait l'air d'être il y a un siècle. Et en même temps, on est aussi un peu coupé de notre avenir parce que difficile de se projeter tant qu'on n'a pas une meilleure visibilité. Alors là, on commence un petit peu à sortir de la brume avec les promesses de vaccins, même si voilà, on ne sait pas très, très bien encore jusqu'où est-ce qu'on va aller, Michel Agier. Mais voilà, alors comment définir ce moment, parce que ça nous aiderait probablement à savoir un petit peu comment se situer et comment s'en sortir.
Oui, 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 effectivement, on est à la fois sur un fait social total parce qu'il représente en condensé l'ensemble de la société à un moment donné. Et là, en l'occurrence, l'ensemble de la société, eh bien, elle est mondiale. C'est ça qui est à saisir aussi dans ce fait social total qui est mondial. C'est sa particularité, je pense. C'est un événement parce qu'il fait rupture, il fait interruption. Il nous a arrêtés dans tous nos rythmes, dans nos rites, dans nos habitudes, dans tous les mécanismes sociaux. Et il a une dimension de catastrophe dans ce qu'il a été ressenti. C'est pour ça que j'ai cette discussion aussi de c'est quoi au juste la catastrophe, c'est quoi finalement, puisque à la fin j'aborde aussi un petit peu cette question-là, le catastrophisme ou la peur de la catastrophe, qui fait la catastrophe quoi, d'une certaine façon. Je pense qu'effectivement, c'est tout cela à la fois si l'on inclut ce ressenti de la catastrophe. Mais ce qui me semble pouvoir risquer de dire, et là c'est le risque que prend l'anthropologue du contemporain, que l'historien ne prendra pas puisqu'il verra les choses faites, le risque qu'on peut prendre, c'est que oui, nous vivons un moment historique, et je l'ai dit plusieurs fois, et là je l'évoque plusieurs fois, c'est-à-dire nous vivons un moment historique parce que, quelles que soient les manières dont nous allons sortir de cet événement-là particulier, nous n'allons jamais vraiment en sortir. Nous sommes déjà dans autre chose. Et le mythe même du monde d'après est un mythe, est un beau mythe nécessaire pour parler de nos désirs et de ce que l'on veut pour le futur. On redonne sens à du futur en parlant du monde d'après. Mais le monde d'après n'existe pas, il est déjà là, on est déjà dans l'après, en même temps que dans le présent. Le présent se transforme et nous sommes en train de vivre le changement social impliqué par cet événement-là. L'ouvrage a cette vocation-là aussi de décrire les éléments de changement social qui vont rester, à mon avis, déterminants. Je pense à cet élément très important que tout le monde a déjà beaucoup commenté, qui est autour de la question de la biopolitique, c'est-à-dire le fait que tout d'un coup, la vie, quelque chose qui serait la vie pure, aurait dominé tout le reste. Eh bien, on s'est rendu compte que, d'une part, effectivement, lorsque le monde entier était saisi par cette peur de la pandémie et de cette peur de la mort ou de la maladie liée à la pandémie, très rapidement, on s'est rendu compte que selon les lieux, selon les personnes, selon les catégories sociales, le vécu a été différent, les initiatives ont été différentes. Il y a eu certains pays où ceux qui auraient eu le pouvoir d'établir le pouvoir d'exception ne l'ont pas fait. Je pense évidemment aux États-Unis ou au Brésil, qui m'est beaucoup plus proche, que je connais mieux. Au Brésil, le président a dit et montré que finalement le virus, ça n'existait pas et qu'il fallait continuer à travailler et à vivre normalement. Eh bien, ce sont les gens eux-mêmes, en particulier dans les milieux les plus pauvres et les favelas et les quartiers populaires que je connais un petit peu mieux, où les gens eux-mêmes se sont organisés, ils ont fait eux-mêmes leur brigade de contrôle sanitaire, ils ont fait eux-mêmes leur pédagogie auprès des habitants pour s'entraider à appliquer les mesures barrières, etc. D'autres lieux, on a évoqué la question des migrants, mais c'est vrai que dans le camp de Moria, à Lesbos, on avait déjà des gens, 13 ou 15 000, qui étaient enfermés dans un camp, complètement à l'abandon. Ce sont les migrants eux-mêmes qui ont organisé des brigades sanitaires pour expliquer aux personnes que... comment ils devaient se protéger et comment ils devaient éviter la transmission du virus. Donc, on voit bien que cette question, finalement, de la biopolitique, en devenant générale, on peut dire on est dans une situation, c'était le tout biopolitique, le monde entier était devenu biopolitique, et pourtant, les inégalités sociales, les inégalités humanitaires, si on peut dire, et la politique se sont réintroduits très très vite, et là on le voit d'une autre manière maintenant dans cette phase, seconde phase comme on dit de la pandémie, où on voit de la contestation, on voit des gens qui discutent les décisions qui sont prises, etc. Ça veut dire là encore que dans des contextes qu'on dirait a priori absolument consensuels parce que relevant de l'urgence humanitaire, comme j'ai pu voir sur tout un tas de terrains auparavant, eh bien, de la politique, du dissensus, du désaccord se réintroduit dans ces contextes-là. Donc ça, c'est un élément de changement durable, à la fois cette puissance de la question sanitaire générale et la repolitisation de cette question sanitaire selon les lieux, selon les catégories sociales.
Mais Michel Agier, le biopolitique ou le biopouvoir, c'est comme vous l'avez dit, une façon de mettre la vie en premier, mais ça peut aussi définir une forme de contrainte sur les corps qui s'exerce par la peur, évidemment, mais aussi par l'exception, par le régime d'exception. Il y a beaucoup de discussions en ce moment justement sur ces régimes d'exceptionnalité juridique dont il est très difficile de sortir, les régimes d'urgence sanitaire par exemple. Vous ne fuyez pas la controverse à ce titre-là, parce qu'au tout début du premier confinement, il y a eu un texte du philosophe italien Agamben qui justement a fait beaucoup polémique parce qu'il avait l'air de dire que le virus, la pandémie était un outil aux mains des puissants pour pousser encore un petit peu plus loin cette politique, comment dire, oui, cette façon de contrainte, cette contrainte sur les corps et sur les personnes. Alors voilà, vous saisissez de cette polémique dans le livre pour finalement en faire quoi, Michel Agier? Qu'est-ce qui vous paraît devoir être retenu de ce qu'a pu dire Agamben et en même temps rejeté?
L'intervention de Agamben m'a paru à la fois erronée parce que, comme tous les intellectuels, quand il y a des prises de parole sur des sujets polémiques publics, ben, il y a des risques qui sont pris et on prend le risque de se tromper. Et on peut dire que Agamben, de ce point de vue-là, s'est trompé. Mais on n'est pas quitte pour autant des questions qu'il pose. Et c'est ça que je défends dans l'ouvrage. On n'est pas quitte pour autant des questions qu'il pose. C'est-à-dire, on le voit très bien, par exemple, comme vous l'avez évoqué, entre ce rapprochement progressif de plus en plus évident entre le sanitaire et le sécuritaire. Quand je disais tout à l'heure, finalement, les États n'ont su faire qu'une chose, c'est de fermer les frontières nationales. Ça a été la première chose. Alors après, ça s'est un petit peu compliqué. Mais la solution de l'enfermement, par exemple, est une solution qui vient régulièrement. Sur le plan sanitaire, si on écoute effectivement les épidémiologistes, les médecins, les biologistes, on se rend compte que toutes ces mesures qui ont l'argument sécuritaire en tête, ce sont des mesures qui, sur le plan sanitaire, sont des mesures par défaut, parce qu'on ne sait pas faire la vraie mesure, qui serait effectivement, à mon sens, la responsabilité individuelle des uns et des autres pour se surveiller, surveiller sa famille et organiser cette surveillance des corps d'une manière responsable, démocratique, citoyenne, etc., etc. Ça serait voilà l'autre réponse possible. La profusion et c'est effectivement un débat qui vient aussi maintenant de plus en plus, la profusion des mesures sécuritaires par exemple en France ou en Europe en général, on voit se rejoindre ben, le sécuritaire à propos de terrorisme, le sécuritaire à propos de ce qui se dit à l'université et qui ne devrait pas se dire, d'après notre ministre de l'Éducation nationale, ou le sécuritaire à propos de la situation sanitaire. Eh bien, cela fait beaucoup de sécuritaires qui, comme ça a été dit dans un article qui vient d'être publié sur AOC, finalement entachent notre liberté progressivement, sans qu'on s'en aperçoive suffisamment, certainement. Donc là, on a effectivement cette conjonction, cette fausse évidence de la superposition de l'humanitaire avec le sécuritaire.
Vous faites référence à l'article de Stéphanie Hennette-Vaucher qui a été publié dans AOC en effet hier et qui fait un peu la liste, comme vous le dites, de ces différentes évolutions, des atteintes à la liberté. Mais alors, Michel Agier, on n'a pas parlé des épouvantails, c'est le titre de votre livre quand même, ça fait une demi-heure qu'on discute à peu près et on n'a toujours pas parlé des épouvantails. Vous avez dit l'importance que vous accordez à ce sentiment de la peur dans votre analyse du phénomène. Mais alors, les épouvantails, qui sont ces épouvantails et quelle est leur fonction pour vous, Michel Agier ?
Alors, pourquoi les épouvantails d'abord ? Parce qu'effectivement, cette discussion même sur la protection des corps et la protection et l'importance que prend la dimension sanitaire, eh bien, au bout du compte, derrière ce débat sur la biopolitique, elle a affaire à la peur que nous avons, à une bonne peur, c'est-à-dire la peur qu'on voit souvent dans les situations où il n'y a pas d'État et il n'y a pas d'ONG, il n'y a rien lors d'une catastrophe, par exemple, d'un éboulement de terrain, d'un tremblement de terre, d'une inondation, il n'y a rien ni personne. C'est la peur qui fait réagir les habitants et qui leur indique le risque, le danger auquel ils doivent faire face. Donc la peur est une bonne peur, si on peut dire. Ensuite, on se rend compte que ces peurs peuvent devenir manipulables, utilisables par des pouvoirs qui vont instaurer, par exemple, des mesures sécuritaires alors qu'on est dans un contexte sanitaire, par exemple. Et donc, substituer une politique sécuritaire à d'autres mesures. C'est pour ça que j'ai d'abord, avant les épouvantails, j'ai d'abord essayé de comprendre un peu comment se distribuer cette peur. Il y a une peur que tout le monde, je pense, a redécouverte, qui est la peur cosmique, la peur du monde, la peur du cosmos. Nous nous croyons modernes au point de n'avoir plus aucune raison de craindre notre vulnérabilité, au point de croire que nous étions plus forts que la nature, plus forts que le monde. Et là, nous nous rendons compte que nous sommes vulnérables, vulnérables face à la force des éléments naturels, face au cosmos, à la puissance de tellurique et à tout ce qui est, tout ce qui fait de nous des êtres minuscules et vulnérables. Et ce caractère minuscule et vulnérable, bien évidemment, m'a renvoyé à un auteur qui avait beaucoup étudié ces peurs cosmiques au Moyen-Âge, qui est Michael Bakhtin, et qu'il a étudié en se demandant ce que les cultures populaires faisaient de ces peurs, et en particulier donc dans les fêtes populaires et dans les carnavals, où on voit les gens qui reprennent ces images de la peur, qui reprennent aussi les figures du déluge, de la catastrophe. C'est justement là, à ce moment-là, que revient cette image du déluge et de la catastrophe, et s'en moquent, en font des caricatures, en font des figures carnavalesques, des pantins et autres formes de dérision. Et donc cette dérision à la fois de ce qui fait peur et des autorités politiques ou religieuses de l'époque qui mentionnaient cette peur du déluge et la, et le jugement dernier qui était attaché, eh bien tout ça faisait que effectivement on renversait la crainte de ces déluges en un épouvantail dont on pouvait rire et se débarrasser ou en tout cas le séparer de son caractère manipulable par les forces politiques ou religieuses.
Ah, justement, cette inversion carnavalesque, Michel Agier, vous l'avez étudiée, vous la connaissez bien au Brésil notamment, et on a des carnavals ici en France aussi, mais ça fait forcément penser au masque, le carnaval. Or, le masque est devenu un attribut qui est rentré très rapidement dans notre quotidien. Et là, encore une fois, les anthropologues ont été très utiles dès le début pour nous expliquer que quand on pensait que les gens ne mettraient jamais de masque parce que culture française, latine, réticente, etc. On explique mais que pas du tout. En fait, les habitudes, ces rituels-là, ils s'adaptent et ils sont adoptés assez facilement. Est-ce que vous, par exemple, vous avez constaté, vous avez été étonné de voir que le masque est assez bien rentré dans les mœurs en France? Comment vous l'analysez?
Le masque a fait partie de la transformation de tous les rituels sociaux ordinaires. C'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, le masque est associé à une forme d'exception, est associé à la fête, est associé au rituel. On a commencé à voir, de ce point de vue-là, quelques usages des masques qui peuvent faire penser à ces épouvantails dont je parle, c'est-à-dire mettre un masque pour dire quelque chose qu'on ne dit pas, par exemple, avec la parole. Ça a été ce qu'on a vu avec le Black Lives Matter, par exemple, et le mot d'ordre
« je ne peux plus respirer »,
qui a été porté, finalement, par la forme symbolique du masque. Mais en même temps, c'est vrai que le masque, en étant de l'exception, il rappelle l'exception. Donc, le masque contribue d'une certaine façon à faire peur. Le rapport est ambivalent avec les masques, puisqu'il signifie l'exception qui peut être utilisée pour dire d'autres choses, comme dans un cadre rituel de fête ou de carnaval, mais il rappelle qu'on est encore dans un cadre d'exception.
Alors, Non, j'allais vous poser une question sur les fictions qui nous permettent justement de prendre conscience de ce que vous venez de dire, puisque vous citez, à l'instant Michael Bakhtin qui a travaillé sur Rabelais. Vous citez même au début, vous avez l'impression d'être dans le livre de Cormac McCarthy, La Route, bon, dans une situation peut-être un peu moins anthropophage et un peu moins terrible, mais malgré tout, voilà, il y a de ça. En quoi les fictions nous aident à comprendre quoi le passage par la fiction même vous paraît essentiel à vous, anthropologue Michel Agier, pour comprendre ce que nous vivons actuellement?
Alors j'arrive à la fin sur cette ouverture, on va dire, sur les fictions, notamment les romans d'anticipation, les fictions, les dystopies ou les utopies, tout ce qui se bouscule d'une certaine façon aujourd'hui au portillon du monde d'après, si on pourrait dire. Il y a énormément de choses qui peuvent nous faire peur ou nous amuser, des monstres, le succès des monstres, le succès des romans d'anticipation, etc. Mais je fais le détour dans ce qui est contemporain, par les terrains que je connais un petit peu mieux, qui sont ces personnages des visiones, qui sont des apparitions, des esprits que j'ai étudiés en Amérique latine, effectivement, et notamment par ces personnages de la forêt en Colombie du littoral pacifique, où quelques esprits, et notamment par exemple la Tunda, qui est un esprit de la mangrove et de la forêt, sont là pour faire peur aux gens, pour faire peur et pour en même temps les protéger, en disant « attention, vous allez dans la forêt, c'est dangereux ». Donc on vous signale le danger en vous disant, par exemple dans l'histoire de la Tunda, qui est un esprit apparemment maléfique, c'est-à-dire qui peut enlever les enfants, qui peut enlever les hommes, leur arracher le sexe, qui peut noyer les hommes dans les marées. Et donc, il faut, selon les légendes, désenvoûter, hein, puisque le terme, effectivement, qui est celui de visiones, c'est aussi des espantus, hein, des épouvantes, très proche des épouvantails, donc de Bakhtin. Et donc, ces épouvantes, elles sont à la fois un peu effrayantes et un peu familières. On peut les adopter avec soi d'une certaine façon, et elles concentrent la peur, elles concentrent les représentations de la peur. J'évoque aussi plus rapidement au Brésil les différents orishas, qui ont chacun un petit peu leur domaine de la nature. C'est le propre de l'animisme, hein, comme on le nomme, le paganisme, où ces êtres-là, ces divinités, ces esprits, protègent la forêt, la mer, la guerre, la violence, etc., etc. Et donc la mobilisation de ces êtres, on va dire, de ces divinités intermédiaires, permet de se confronter à la peur, permet de traiter la peur, comme le dit Goethe, effectivement, le poète, lorsque la peur me prend, j'invente une image, et bien c'est exactement ça, j'objective ma peur en la dessinant, en la racontant, etc. Et donc on arrive effectivement à ce que vous dites, c'est-à-dire aujourd'hui, et nous, que chez ici, maintenant, dans ce contemporain de la pandémie, que se passe-t-il? Eh bien, au Japon, par exemple, un esprit de la mer, Amabe, a été finalement ressorti de la mer, c'est une sorte de sirène à trois pattes, pour devenir le symbole de la lutte contre la pandémie. C'est une des illustrations, mais je pense que ce qu'on fait sur les masques, et ce qui se fait depuis des mois, je pense, sur les réseaux sociaux, et dont on n'a peut-être pas encore vu les résultats en termes de production de bandes dessinées, de romans, de fictions, de films, de documentaires, de poèmes, etc., fait partie de ces mêmes épouvantails, c'est-à-dire de ces mêmes transformations de la peur, de l'imaginaire de la peur dans un imaginaire créatif.
Ben alors Michel Agier, puisque vous parliez des masques et des réseaux sociaux, une question qui est posée là sur par l'un de celles ou de ceux qui nous écoutent, j'ai pas le nom, les masques qui font que l'on ne connaît pas le visage des personnes que l'on rencontre donc depuis la crise sanitaire, peuvent-ils rendre la société qui se profile encore plus anonyme? C'est la question qui vous est posée, qui vous adressez directement, Michel Agier. Voilà, est-ce que on va vers une anonymisation encore plus grande de la société?
C'est une des réponses possibles. On va vers une individualisation progressive. On va évidemment, dans un mouvement historique, on va de plus en plus vers l'enfermement sur soi, le repli sur soi, et donc une certaine un mode de vivre incognito. Et quand on pense à ça, on pense aussi à à ce mouvement, qui est un mouvement social, qui se déploie aujourd'hui, où des gens vont dans la rue masqués, le visage masqué, pour ne pas être repérés par des caméras de surveillance. On le voit beaucoup aux États-Unis et un peu moins en France. Mais, voilà. Et donc, c'est une tendance, effectivement, qui existe, où on a à nouveau ces deux éléments, effectivement, assez inquiétants, de la société de plus en plus sécuritaire, avec ces caméras de surveillance et le fait d'être visible partout, et donc la réaction contre cette société de surveillance de personnes qui mettent ces masques pour s'en protéger, et une voie, on va dire, plus individualiste et voire plus hédoniste, qui est le fait qu'effectivement, des gens peuvent apprécier le fait qu'on ne voit pas toujours leur visage dans la rue et apprécient ce repli sur soi. Mais ce repli, cet anonymat qui se développe, fait partie de l'orientation générale des sociétés que confirme finalement la réaction à la pandémie.
puisque vous citez des livres de science-fiction, d'anticipation, je renverrai ceux qui nous écoutent, l'excellent livre d'Alain Damasio, Les Furtifs, où justement toute cette question de l'anonymisation et de la protection des individus contre l'observation est abordée. Bah, écoutez, Michel Agier, je pense qu'on arrive au bout de cette discussion. Je vois pas d'autres questions sur le forum de nos spectateurs et spectatrices. Merci beaucoup, en tout cas, de vous être prêté à l'exercice. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Vivre avec les épouvantails », c'est donc aux excellentes éditions Premier Parallèle, c'est sorti au mois d'octobre, et vous pouvez le commander en click and collect, comme on dit, pour aller le récupérer chez votre libraire, si les libraires ne rouvrent pas tout de suite. Merci beaucoup à la BPI d'avoir organisé cette rencontre. Je signale que la semaine prochaine, il y aura la rediffusion d'une rencontre qui avait été organisée avec les éditions de l'EHESS, une maison que vous connaissez bien, Michel Agier, autour de Pour les sciences sociales, qui était un ouvrage qui réunissait 101 livres de sciences sociales. Voilà, et donc, il en sera question lundi prochain, même endroit. Je ne sais pas si c'est à la même heure, mais vous retrouverez toutes les informations par le canal habituel. Merci beaucoup. Merci Michel Agier.